Au sous-sol du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, une équipe de mycologues s'occupe d'une collection patrimoniale de plus de 6000 souches fongiques. Une précieuse bibliothèque de champignons microscopiques conservés vivants pour les besoins de l'enseignement, de la recherche et de l'industrie. Rencontre avec Joël Dupont, mycologue, responsable de la collection de souches fongiques et du service d'expertise et d'identification de ces fascinantes moisissures.
Joël Dupont, je suis professeur au muséum, je suis mycologue, alors je suis spécialisée sur les moisissures, donc les champignons microscopiques. Alors la mycologie, c'est la science des mycètes. Les mycètes, ce sont donc les champignons, hein, qui pendant longtemps ont été considérés comme des plantes, sont maintenant un règne à part. Et d'ailleurs, on s'est même rendu compte qu'ils étaient plus proches des animaux que des plantes. Mais maintenant, on en a une certitude avec le séquençage d'ADN en particulier.
Qu'est-ce qui les différencie vraiment des plantes? Il n'y a pas du tout de photosynthèse dans les mycètes.
Non, il n'y a pas du tout de photosynthèse. Effectivement, ils se nourrissent par absorption. Ils n'ont pas de cellulose dans leur paroi, mais plutôt de la chitine, comme les insectes, par exemple. Dans l'univers des champignons, beaucoup sont dépendants d'un hôte pour se développer, en particulier les gros champignons, ce qui fait qu'on ne peut pas les cultiver. Et nos petits champignons à nous, nos moisissures, sont surtout des champignons saprophytes et qu'on peut donc cultiver, garder en collection sous forme vivante. Et ça, c'est un énorme avantage pour la science parce qu'on les a toujours à disponibilité et donc on peut faire un tas de recherches dessus. Ça va de la génomique à la physiologie, à plein de choses, à la génétique, etc.
Est-ce que vous voulez qu'on descende?
On peut descendre voir la collection si vous voulez, oui. Oui. Les collections sont toutes au sous-sol, en fait. Alors, au sous-sol, on va voir deux types de modes de conservation pour cette collection de souches fongiques. On va voir la congélation à moins 80 et puis des containers d'azote pour la longue durée, justement, en sauvegarde.
Ça, c'est incroyable. Et donc, on est vraiment au sous-sol du Muséum national d'histoire naturelle. Là, dans les galeries souterraines, il y a vraiment des frigos de chaque côté d'un très long couloir.
C'est ça. Et dans ces frigos, il y a beaucoup d'ADN, en fait. Voilà. Notre salle de conservation en azote liquide se trouve ici. Grosse bonbonne d'azote. Ce sont des boîtes qui contiennent des petits tubes. Et qui sont, dans ces petits tubes, sont conservés des spores de champignons. Les spores, ce sont les petites graines, hein, des champignons, et ce sont elles qui sont les plus résistantes, hein, qui permettent de survivre. Les premières souches congelées datent de 1980, elles sont toujours vivantes, il n'y a aucun problème.
Pourquoi c'est important de conserver justement ces souches vivantes ?
Ah, alors, ça c'est très intéressant. Les collections du muséum sont des collections patrimoniales. Et donc, on a pour devoir de conserver la diversité. Et on peut, en gardant des souches très anciennes, après établir des chronologies.
Ça vous permet de faire un retour en arrière. Absolument. Et de voir l'historique et la mutation des potentiels des champignons.
Éventuellement, voilà. Ça, c'est une des applications. Et on peut faire de la génétique des populations aussi, en conservant plusieurs souches de la même espèce et régulièrement dans le temps. Et donc, voilà, c'est un mode de conservation très efficace. Je referme. Ces souches sont disponibles pour à la demande. Et nous devons, en tant que muséum national, nous devons distribuer ces souches. Alors, on nous les demande pour l'enseignement, pour la recherche, évidemment, et puis l'industrie peut nous les demander. Celle qu'on distribue le plus souvent, c'est pour appliquer les normes de résistance des matériaux aux moisissures. Et on distribue régulièrement des souches pour tester des matériaux de l'aéronautique ou de tout style, à vrai dire.
Donc vous envoyez des petites spores à des entreprises qui vont ensuite les mettre, voilà, sur les matériaux et vérifier que ça résiste bien.
Voilà, exactement. J'envoie plusieurs souches souvent parce que c'est des cocktails, hein. Et il arrive aussi que des industries nous demandent des souches pour développer des nouveaux procédés, chercher des enzymes particulières pour dégrader les résidus de l'agriculture, par exemple. On a travaillé aussi avec des industriels, des céréaliers, pour essayer de trouver des moisissures utiles au biocontrôle de pathogènes fongiques, hein, de pathogènes du blé en particulier. On a beaucoup travaillé évidemment avec l'industrie fromagère, hein, pour étudier leurs contaminants et puis leurs inoculums. Pour vérifier un petit peu l'identité exacte de leur inoculum. Et donc, on a très vite appliqué les méthodes de séquençage d'ADN pour identifier ces petits champignons.
Bonjour.
Bonjour, madame. Ah, on peut remonter par le... J'ai mon badge, oui. Il y a tellement de portes.
Oui, ça, c'est labyrinthique.
Voilà, c'est ici...
Là, on est à votre bureau. Il y a déjà plein d'échantillons de champignons un petit peu partout sur votre bureau.
Oui, oui, oui. Alors, effectivement, je reçois beaucoup d'objets moisis ou de cultures de la part de l'industrie. Pas mal de l'industrie agroalimentaire. Beaucoup aussi des bibliothèques, musées qui ont des œuvres contaminées. On travaille régulièrement avec le Centre Pompidou. Là, j'ai du chocolat moisi. Bon, ça pose des problèmes effectivement dans l'industrie de la pâtisserie en particulier, hein. Et ces champignons sont ce qu'on appelle xérotolérants, c'est-à-dire qu'ils tolèrent des substrats très dépourvus en eau. Et le chocolat, quand il est remis sur un petit gâteau un peu moelleux, un petit peu humide, eh bien, il peut moisir.
Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui vous envoient ces échantillons pour essayer de comprendre quelles sont les souches qui se développent et comment on peut éviter qu'elles se développent ?
Oui, mon rôle est surtout d'identifier le champignon, bien sûr, et moi, en ayant identifié le champignon, je connais sa physiologie, etc., et je peux déduire de sa provenance en particulier, comprendre d'où vient la contamination et comment on peut l'éviter. Et donc, voilà, je les aide de cette façon-là. Alors ça, c'est la boîte quand même, petit gâteau moisi, mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres un petit peu partout. J'ai même le Penicillium roqueforti qui, lui, a été séquencé. On l'a séquencé ici au labo.
C'est la moisissure du roquefort ?
Oui, oui, voilà, c'est la moisissure du roquefort et de tous les fromages bleus, en fait, hein, et pour laquelle on essaie de comprendre l'évolution. En particulier, ces champignons ont été domestiqués, au même titre que les animaux ont été domestiqués ou les plantes. Et donc, ces champignons du fromage, qui ne vivaient pas a priori sur un milieu lacté, plutôt sur des végétaux, hein, pour Penicillium roqueforti, se sont adaptés au fromage. Et donc leur génome montre des traces de domestication. Ils ont acquis des potentialités qui leur permettent de se développer sur la caséine. Alors ces champignons dans le fromage, ils participent à la maturation, bien sûr, et au développement des flaveurs, du goût. Hein, du fromage.
Vous sentez un regain d'intérêt pour ces micro-organismes depuis quelques années ?
Ah oui, 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 tout à fait. On est pas mal sollicité pour l'utilisation de ces collections, effectivement, pour les enzymes en particulier, pour la dégradation des déchets, ça c'est clair. Après, il y a des petites start-up qui s'intéressent aussi aux champignons pour créer des nouveaux matériaux. Par exemple, pourquoi pas, pour construire des briques ou des... C'est avec du mycélium de champignons. Les moisissures sont magnifiques. De voir ces petites moisissures au microscope ou à la loupe, c'est vraiment un univers assez fantastique. C'est vraiment très esthétique. Moi, je vois encore, là, la semaine dernière, j'ai fait observer à une étudiante des aspergillus, justement. Ça ressemble à des petits pompons, hein, des petits pompons très, très délicats. Et si on regarde, si on augmente le grossissement de la loupe, on voit qu'il y a des petites chaînettes de spores. Et chaque tête d'aspergillus, on dit une tête d'aspergillus, comporte des millions de spores. Et donc, évidemment, quand un courant d'air se met là-dedans, elle disperse et c'est pour ça qu'il y en a des quantités énormes dans l'air. Les champignons sont partout, même dans des habitats auxquels on n'aurait jamais pensé. Hein. Le fond de la mer, les rochers, les cailloux, les champignons participent à l'éclatement des roches. On pense qu'avec cette diversité, il doit y avoir des potentialités énormes. Et alors, le règne des champignons est certainement très vaste. Et on nous dit toujours qu'on ne connaît qu'environ 10% de la diversité des champignons. Actuellement, 120 000 espèces sont décrites. Et il pourrait y en avoir quelques millions. Mais ces quelques millions, on commence à en évaluer la diversité grâce aux méthodes de métagénomique, de séquençage général, enfin global de l'ADN. Et on découvre là des pans entiers de la diversité des champignons qu'on n'avait jamais soupçonnés. Donc oui, il y a beaucoup à découvrir, vraiment beaucoup.